Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, on peut dire qu'avec le thème des lectures d'aujourd'hui sur la résurrection, nous avons une sorte de coïncidence, si j'osais dire, pédagogique, puisque cela vient juste après le dimanche, le jour de la Toussaint et le jour de prière pour les fidèles défunts. Et nous allons donc être appelé à approfondir ce que le catéchisme appelle comme le point culminant du credo. En effet, le credo culmine, dit-il, en la proclamation de la résurrection des morts à la fin des temps et en la vie éternelle. Le Christ vit pour toujours, et même après leur mort, les justes vivront pour toujours avec et dans le Seigneur ressuscité, et il les ressuscitera au dernier jour. Comme la sienne, notre résurrection sera l'œuvre de la Trinité. C'est un élément essentiel de notre foi. Et saint Paul, souvenez-vous, rapporte, s'il n'y a pas cela, si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, eh bien toute notre foi tombe, notre foi est vaine, dit-il aux Thessaloniciens qui se posaient déjà la question. En effet, c'est quelque chose de difficile pour nous de comprendre, d'imaginer encore plus la résurrection des morts. Et dans la Révélation, c'est un point qui a été développé seulement petit à petit. Nous sommes dans le livre des Maccabées, dans une période qui est dans les années 160, 170 avant Jésus, et peut-être un petit peu avant avec le livre de Daniel, 20-30 ans avant. Mais c'est les premières fois que l'on parle avec le martyre de ces hommes, avec cette persécution terrible, mais en des termes si forts de ce sens de la résurrection. Tu me prends la vie, mais Dieu me la rendra. Et c'est même très concret, ce n'est pas une vie comme ça, un peu éthérée, ou voilà, on ne sait pas trop, mon âme, je ne sais pas quoi. Non, mes membres que tu me prends, il me les rendra, et je serai entier devant le Seigneur. Révélation progressive, il n'empêche que depuis les origines, jusqu'aujourd'hui, eh bien, multiples sont les incompréhensions, multiples sont les oppositions. Saint Augustin, déjà au Ve siècle, disait « Sur aucun point la foi chrétienne ne rencontre plus de contradictions que sur la résurrection de la chair. » En effet, nous sommes de nos jours exactement comme les Sadducéens du temps de Jésus, mais comment cela peut-il se faire ? Et c'est intéressant d'entendre dans la réponse de Jésus, qu'est-ce que fait Jésus quand il leur parle ? Eh bien, il coupe de façon nette, avec une résolution que nous voudrions, qui est dans l'imagination. Ce n'est pas du même ordre, ce n'est pas de l'ordre de cette vie qui continue, qui nous serait restituée comme elle est, mais c'est greffé sur la résurrection de Jésus que nous allons vivre. En effet, déjà pour la résurrection de Jésus, bien souvent nous avons du mal et nous l'imaginons souvent comme notre sens un peu de l'éternité ou du sort des défunts. Nous l'imaginons un peu, la mort de Jésus, un peu comme un déni de la mort, comme il est mort, oui, mais enfin, c'est pas grave, dans le sens où trois jours après, ben, il reprend la vie, il vit. Et ce n'est pas une négation de la mort, c'est une traversée de la mort pour une présence nouvelle, donner de nouveau. En effet, et saint Paul insiste beaucoup, si nous avons connu le Christ d'une manière charnelle, eh bien, nous devrons le connaître d'une manière spirituelle, d'une manière nouvelle. En effet, comme pour les apôtres qui, dès le moment où ils furent appelés par Jésus, ils ont été profondément touchés par lui. Ils ont suivi son appel. Dans les années de vie publique, ils se sont rapprochés toujours plus de lui. Il était pour eux une lumière dans son humanité directe et humble, par ses mots, par ses miracles, par son rayonnement qui donne de la force et de l'amour infini. Il est devenu le centre de leur vie. Et nous risquerions de limiter notre vie chrétienne à ce point de vue. Mais il n'y a pas encore de christianisme, il n'y a pas encore de suite de Jésus ressuscité. Et si nous ne comprenons pas la résurrection, si nous avons du mal à accepter ce dogme de la résurrection, c'est bien souvent parce que nous restons à cette relation charnelle avec Jésus. Mais pour les apôtres, il va y avoir la catastrophe, la mort de Jésus. Incroyable mort qui vient impossible à imaginer le point de vue auquel la tristesse dans laquelle ils sont rentrés. Ils viennent de perdre le fondement de leur vie. Et cette mort de Jésus, elle est aussi notre mort, celle que nous vivons, celle que nous traversons dans le baptême. Pour découvrir ensuite que, comme avec les apôtres, le troisième jour, mais Jésus leur rend visite, il est là, et avec l'ascension et la Pentecôte, et définitivement, ils vont oublier l'apparence humaine de Jésus, et ils vont le découvrir présent. Ils vont vivre avec lui, toujours, partout. Il est omniprésent dans leur vie de tous les jours, sans qu'on puisse l'expliquer. Mieux même, il est présent plus que jamais. C'est l'Esprit du Christ qui vit en eux. Le ressuscité est Jésus de Nazareth, mais non plus dans son apparence humaine, concrète et tangible. Et pour nous, chrétiens, nous sommes amenés à un changement similaire de son image. Nous apprenons bien entendu à connaître Jésus grâce aux livres, aux paraboles, aux récits de l'Évangile, aux témoignages, aux exemples, aux célébrations dans nos paroisses, dans l'Eucharistie, par des journées de retraite, de recueillement, etc. Mais nous devons découvrir le royaume du Christ au-dedans de nous. Et Jésus n'est pas simplement un vis-à-vis, un modèle à suivre, mais il devient l'insaisissable, l'omniprésent qui vit en nous et qui est plus proche de nous que nous-mêmes. Dans le baptême, c'est à travers cette mort et cette résurrection que nous sommes appelés à vivre. Et le baptême, ce n'est pas simplement la grâce d'un jour, mais c'est la grâce de toute notre vie que nous sommes appelés à vivre, à approfondir, à mettre en œuvre durant toute notre vie, pour que justement ce passage, cette intériorisation, cette découverte de la présence du ressuscité soit avec nous. Souvenez-vous les grands textes de saint Paul avec ces petites phrases lapidaires: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ou si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivons. Et alors ce changement, effectivement, il est pour, comme pour les apôtres, ce changement, il est douloureux. Ce changement, il est laborieux. Il faut que nous l'apprenions petit à petit, de passer de cette apparence humaine du Christ, de ce modèle humain, même avec les belles paroles, la belle sagesse de Jésus, mais pour vivre de sa présence. Pour vivre, non plus en désirant faire des belles choses pour Jésus, non plus en être des hommes de bien comme le pharisien qui prie dans le temple, qui était très bien cet homme, qui a fait énormément de progrès moraux, spirituels pour avancer et qui présente sa prière au Seigneur. Mais le Seigneur dit, mais c'est pas lui qui a été justifié. Mais pour découvrir quel est ce mystère de la vie chrétienne, de vivre avec cette présence du Christ au fond de notre cœur, qui vient nous illuminer sans cesse. Nous avons dans ces étapes du baptême le travail pour approfondir notre baptême, eh bien, ce grand travail de libération qui va nous faire passer par cette mort au vieil homme pour vivre de cet homme nouveau, pour vivre de la grâce. C'est cette délivrance du péché. Il y a bien sûr le péché personnel, les actes répréhensibles que nous pouvons faire, ce n'est qu'une petite partie de ce péché qui est fondamental en nous et qui se manifeste à travers ces tendances à la cupidité, aux soifs de pouvoir, à l'ambition, et nous y remettons sans cesse, que l'on rencontre par exemple, qui sont illustrés dans les tentations de Jésus et qui forment comme le fond de notre vie, mais dont le Seigneur justement vient et est venu pour nous libérer. Nous avons de cette libération une bonne illustration dans le Notre Père. Jésus-Christ nous fait dire à nous, Jean Cupide, que ton règne vienne. Cela revient à dire que ton royaume se répande parmi nous et non le mien. Dans notre soif de pouvoir, nous imposons à nos semblables notre volonté. C'est pourquoi Jésus nous apprend à dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Et surtout, nous disons que ton nom soit sanctifié et non le mien. Et on retrouve là le renoncement à notre propre honneur afin de louer Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, dans le petit embolisme qu'il y a à la fin du Notre Père, cette acclamation, nous répétons en chœur et en chantant, c'est à toi qu'appartiennent le règne, et la possession donc, la puissance, le pouvoir et la gloire, c'est-à-dire l'honneur. Et c'est cette pédagogie de notre vie d'approfondissement, de renouvellement sans cesse des grâces de notre baptême que nous sommes appelés à le vivre. Alors vous voyez, cette résurrection de Jésus, si nous faisons ce passage que vient nous appeler le baptême, elle n'est plus quelque chose d'étranger, quelque chose qui, après la mort, se passerait, mais elle est déjà une réalité vivante dans notre cœur. On voit dans la prière de Jésus, dans l'évangile de Jean, tout au long de l'évangile de Jean, d'une manière particulière, et dans sa prière de Jésus, ce lien avec le Père. Justement, qui lui fait vivre et qui lui fait traverser le monde, non au niveau pour résoudre les choses au niveau de l'apparence humaine, mais il est fixé, il est dans cette union avec le Père, il aime et il est le reflet de cet amour du Père qui n'est pas dans la performance et dans la compétition comme nous le sommes sans cesse à la cupidité, à avoir toujours plus, ou dans la possession, ou dans l'honneur, l'orgueil de notre vie. Mais c'est dans ce regard du Père, c'est dans cette prière justement, le Notre Père, où Jésus nous donne sa prière, son lien au Père, qui devient notre lien. Et ce regard de Jésus, il est le ferment, il est la puissance et il est la présence de la résurrection dans nos vies. Demandons la grâce de pouvoir nous enraciner dans cette vie chrétienne, de goûter, de vivre déjà de la vie de la résurrection de Jésus et de notre vie où la résurrection commence à se déployer pour qu'elle prenne toute sa dimension lors de notre passage au Père. Amen.